Angéline Billot, autrice, auteure, Paroles de lumière, un nouveau recueil que vous nous présentez aujourd'hui sur Fréquence Mistral.
Bonjour Odile, merci de m'accueillir à Fréquence Mistral. Voilà, pour vous parler de mon recueil.
Alors on va revenir d'où vous venez, Angéline Billot, puisque vous écrivez de la poésie depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Alors, la poésie, en effet, est une histoire très ancienne dans ma vie. L'écriture déjà et la lecture, bien sûr, parce que je pense que chez beaucoup d'auteurs, la littérature va être une nourriture qui ensuite va déclencher chez certains lecteurs l'envie d'écrire, ça me paraît être vraiment très lié. Et j'ai d'abord été une lectrice. C'est une histoire de famille, puisque c'est ma maman, ma mère, qui m'a donné le goût de la lecture, étant elle-même une grande lectrice. C'est un peu une histoire de famille parce que ça lui vient elle-même de son père. Je vous raconterai après le lien avec la poésie parce qu'il y a une petite anecdote dans la famille aussi à ce sujet. Et puis, donc, la poésie, je l'ai découverte d'abord avec ma mère parce qu'elle nous emmenait régulièrement à la bibliothèque municipale, un peu comme beaucoup d'enfants. Et à la bibliothèque municipale, un jour, elle a emprunté un recueil de poésie qu'elle m'a prêté. Et elle m'a proposé de le lire. Et en fait, ce recueil de poésie, j'ai compris après qu'il avait été écrit par mon grand-oncle. C'était un grand-oncle décédé à ce moment-là, je ne l'ai jamais connu. Le titre, c'était Trajet. Et ça a été un petit peu le premier point de départ de l'envie ensuite d'écrire moi-même de la poésie, parce que ça a d'abord été un grand coup de cœur pour ce type d'écriture, en fait. Voilà, ce type de littérature et d'écriture. Donc ça a été le premier point de départ qui m'a inscrit dans une sorte de... dans une lignée familiale, en fait. Et puis ensuite, quand j'étais au collège, j'ai eu un professeur qui nous a fait découvrir avec les camarades de classe d'autres poètes comme Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud a été mon deuxième grand coup de cœur en poésie. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des poèmes. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai participé à des concours de poésie, etc. Et après, encore après, j'ai toujours continué à écrire de la poésie. Hein, j'ai jamais arrêté de toute ma vie. Et j'ai été publiée dans une revue de poésie qui s'appelle Le Nouvel Athanor. Et ensuite, j'ai recommencé à écrire de la poésie. Et notamment, alors après, en fait, je me suis servi des réseaux sociaux pour partager mes poèmes. Notamment, en fait, j'ai eu un moment d'écriture assez intense au moment du premier confinement, parce que je sentais pas mal des personnes de mon entourage, ou en général, assez désemparées, assez désorientées. Même pour certains, ça pouvait aller jusqu'à une certaine forme de détresse, d'isolement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, sachant que, évidemment, comme tout le monde, j'étais chez moi, je ne pouvais pas faire grand-chose, en fait, pour aider toutes les personnes qui n'étaient pas bien à ce moment-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée de commencer à partager mes poèmes sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook auteur, à mon nom. Et donc, pour un peu soutenir, dans l'idée de soutenir, d'apporter du réconfort ou de partager un peu ce que moi je ressentais avec les autres, parce que je sais qu'en tant que lecteur, ça fait partie des choses dont on peut avoir besoin, en fait, de partager une expérience, finalement. Et puis, donc j'ai laissé ça comme ça. Je n'avais pas forcément l'intention de les publier au départ, ces poèmes-là. Puis j'en ai écrit beaucoup quand même. Puis après, je n'ai pas arrêté, en fait. Et puis, un jour, j'étais chez une de mes amies qui lit régulièrement mes poèmes sur ma page Facebook ou sur mes réseaux sociaux. Et cette amie-là m'a dit, mais en fait, pourquoi tu les publierais pas? Parce que c'est pas toujours facile d'aller sur Internet, etc. C'est pas toujours évident. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, en fait, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut éventuellement, déjà toucher peut-être d'autres lecteurs. Et puis, en fait, voilà, l'aventure est partie de cette petite remarque d'une amie, voilà.
Le confinement a eu du bon pour tous les auteurs. Ça a fait travailler, ça a permis pour bon nombre de personnes confinées de se mettre ou à écrire ou à chanter.
C'est vrai, hein, parce qu'en fait, vraiment, je cherchais le moyen de pouvoir aider d'autres personnes, en fait. Mais j'étais évidemment limitée et restreinte comme tout le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait ? Parce que la poésie, pour moi, ça peut toujours être justement un outil de guérison, entre guillemets, de guérison émotionnelle en fait. Hein. De réconfort, de consolation et de partage d'expérience. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée en fait pendant le premier confinement, même si j'écrivais déjà depuis toujours, hein, mais là j'ai eu, c'est vrai, une sorte de résurgence de l'envie d'écrire qui est devenue de plus en plus forte en fait à ce moment-là et de plus en plus régulière. C'est-à-dire que avant j'écrivais, mais ça pouvait être plutôt par période d'inspiration subite. Et puis j'ai commencé à entretenir une certaine forme de régularité dans mon écriture. Et je pense que ça, cette discipline, en fait, a été tout à fait bénéfique.
C'est important de se discipliner, justement, dans l'écriture. Il faut faire ses gammes, mais tous les jours, c'est...
Alors, peut-être pas tous les jours, parce que, bon, on a tous à côté une vie quotidienne avec nos professions, nos enfants, etc. Mais tous les jours, c'est peut-être un petit peu lourd. Mais je sais que moi, je pense une certaine forme de régularité, de discipline, un rythme en fait, un rendez-vous avec soi-même où on s'offre une sorte de parenthèse pour revenir à soi. Alors moi, c'est à travers l'écriture, mais après, évidemment, chacun trouve bien sûr le moyen, l'outil qui lui parle, bien entendu. Franchement, je pense effectivement que, en tout cas... Moi, ça m'a apporté, dans ma pratique de l'écriture, ça m'a vraiment apporté beaucoup, cette discipline. Oui, ça m'a permis, par exemple, d'aller jusqu'au bout de mes projets, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, j'ai jamais arrêté d'écrire, hein, depuis que je suis toute petite, mais il m'est déjà arrivé de ne pas aller jusqu'au bout de certains manuscrits, en fait. Mais là, cette discipline m'oblige, en fait, à... justement, aller jusqu'au bout des projets et puis après essayer de les concrétiser, de les finaliser. Donc oui, pour moi, ça a été un plus, c'est vrai, ça a été bénéfique. Et je pense, quand on regarde la pratique de la plupart des écrivains, qu'il y a cette forme de discipline, hein, comme vous dites, faire ses gammes, comme en musique ou comme dans tous les arts, en fait, parce que les peintres aussi, c'est pareil, hein, ils peignent régulièrement, mais après, ça peut rester à l'état d'esquisse, et pas forcément donner une œuvre définitive en fait, mais c'est pas grave, c'est l'idée de pratiquer, de s'entraîner, voilà.
Alors vous étiez déjà venu sur notre antenne pour nous présenter votre premier roman, c'était Pachamama, vous êtes venu début 2021. Mm-hmm. Aujourd'hui vous êtes revenu à la poésie.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour Parole de lumière ? Alors, on va revenir à ce livre. Mmh. C'est un titre, bien sûr, qui peut paraître illuminé. Pourquoi ce titre et qu'est-ce contient ce livre ?
Alors, en fait, par rapport à mon premier roman, Les enfants de Pachamama, finalement, j'ai jamais quitté la poésie. Hein. C'est-à-dire, je fais tout le temps des allers-retours entre les deux. J'aime aussi beaucoup écrire de la fiction parce que je trouve que écrire de la fiction et des romans, ça a un côté ludique. Enfin, moi, que je trouve ludique dans mon approche de l'écriture, dans le sens où c'est un petit peu comme quand j'écris de la fiction, je retrouve la petite fille que j'étais, qui aimait les contes, qui aimait beaucoup les contes de fées, les histoires de fées, d'elfes, cet univers un peu fantastique. Et en fait, je me fais plaisir en écrivant des fictions, et je pense que je fais plaisir aussi aux adultes qui sont restés assez proches de l'esprit de l'enfant, ou ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur, en fait. Et donc, c'est, pour moi, c'est une approche ludique. Mais dans Les Enfants de Pachamama, il y avait déjà quand même des passages poétiques, c'est-à-dire que le point de départ de l'histoire des Enfants de Pachamama, c'est mon personnage principal qui découvre un poème. Et à partir du poème, en fait, se déclenche tout un tas de péripéties et d'aventures dont le poème est le point de départ. Et il y a régulièrement dans Les Enfants de Pachamama des poèmes. Donc en fait, pour moi, ça a toujours été lié, les deux. La poésie et la fiction, et je n'ai jamais abandonné ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, là, je continue à écrire des poèmes, il va y avoir d'autres recueils ensuite apparaître, mais en même temps, je continue aussi à écrire de la fiction, en fait. Et donc, quand je j'initie un acte d'écriture, quand je me mets à mon bureau pour écrire, ben, parfois c'est la fiction qui est en cours, le petit roman qui est en cours, et parfois c'est la poésie qui s'impose à moi, en fait. Alors après, par rapport au titre de Paroles de Lumière, en fait, quand j'ai choisi ce titre, j'avais envie de rappeler en fait une certaine forme de tradition de la poésie à laquelle je me rattache, qui est à la fois la poésie lyrique, mais aussi la poésie alchimique. Donc le lien entre l'acte de création, la création, et l'alchimie. Alors l'alchimie dans le sens créatif, dans le sens artistique. Par exemple, dans la tradition de Baudelaire, qui parle de l'alchimie par rapport à son acte de création de poésie à lui, en tant que poète, avec... un des vers les plus célèbres de Baudelaire, qui est « Donnez-moi votre boue, je vais en faire de la lumière, justement. » De l'or, pardon. De l'or. Et l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, la poésie est un acte créateur. D'ailleurs, le mot « poésie » vient du grec « poien », qui veut dire « créer ». Un acte créateur qui vise à transmuter ce qui pourrait être considéré, par exemple, dans notre expérience ou dans notre quotidien, comme quelque chose de négatif. On pourrait le voir comme quelque chose de négatif. Donc, exemple, l'expérience du confinement, puisque j'ai écrit la plupart de ces poèmes pendant cette période, on pourrait le voir comme quelque chose de négatif. Et en fait, la poésie a visé, pour moi, pour ce qui me concerne, à transformer cette période qui aurait pu être perçue comme négative, à la transformer en quelque chose de lumineux et de positif, en apportant justement du réconfort, de la consolation aux personnes qui vivaient cette expérience comme quelque chose de négatif. Voilà. Donc moi, c'est ma perception de la poésie, c'est comme ça que je me positionne quand j'écris. Alors évidemment, je ne le conscientise pas au moment où j'écris. Au moment où j'écris, je ne me dis pas, tiens, je vais faire de l'alchimie poétique. Non, pas du tout. Ça, c'est après coup. C'est une fois qu'on a écrit ces poèmes, ces textes, là, on peut commencer à analyser et à conscientiser comment on a écrit, dans quelle tradition on s'inscrit. Et moi, je m'inscris en conscience dans une tradition lyrique et alchimique de la poésie.
C'est important pour vous de faire passer des messages un peu de consolation par la poésie.
Oui, exactement.
Une envie d'aider les autres à mieux vivre.
C'est ça. En fait, vraiment, là, c'était le point de départ de ce recueil. Et après, finalement, ça ne m'a jamais lâché, ça. Après, j'ai continué à écrire d'autres poèmes. Et c'est vrai que c'est un objectif qui m'a toujours accompagnée, en fait, dans l'écriture de mes poèmes. Depuis ce moment. Alors après, quand je dis paroles de réconfort, après ça peut être aussi partage d'expérience également, message pour aller vers peut-être une autre perception de certains aspects dans notre société. Donc par exemple, je parle beaucoup, je parle des femmes par exemple, de comment les femmes peuvent se représenter, comment elles peuvent être représentées dans la société, dans certains poèmes. Je pense que le prochain recueil que je vais publier, parce qu'en fait, là, j'ai beaucoup de poèmes, il faut que je fasse une sorte de sélection pour voir après que le prochain recueil, il sera tourné autour de quelle thématique. Et je pense que le prochain, il sera autour du féminin, de la femme, ce que certains peuvent appeler le féminin sacré, dans le sens où j'ai bien envie, parce que j'ai pas mal de poèmes qui vont dans ce sens-là, comment dire, de rappeler aux femmes et à tout le monde, hein, pas que aux femmes, la sacralité de leur personne, de leur personne, de leur essence féminine. Voilà. Donc ça, ça fait aussi partie des messages que j'ai envie de faire passer.
Alors justement, Angéline Billot, je vous demanderai ou vous proposerai de nous lire un extrait de votre livre « Paroles de lumière ». C'est aux éditions Le Lys Bleu, sur les femmes justement.
Oui, volontiers.
Alors, on vous écoute.
Voilà. Alors après aussi, dans ce que j'écris, il y a aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mis à part donc s'inscrire dans une tradition lyrique, qui est aussi ne jamais oublier nos racines et dans quelle lignée je m'inscris en tant que femme, en tant qu'être humain et en tant que poétesse. Oui, poétesse, c'est un mot auquel je tiens beaucoup. Je suis très fière de pouvoir dire que je suis une poétesse parce que je pense que c'est une fonction qui, dans la société, est devenue très rare. Et qui pourtant, autrefois, notamment dès l'Antiquité en fait, était une des fonctions que certaines femmes pouvaient prendre et qui me paraît être une fonction très noble en fait. Et j'appelle toutes les femmes qui ont envie d'écrire de la poésie justement à reprendre le flambeau des poétesses, car voilà, il me semble que c'est un acte créateur très fort, très puissant, et donc je n'oublie jamais de m'inscrire dans cette lignée de femmes. Ça, pour moi, c'est très important également, mais aussi par rapport à mes ancêtres féminines en fait, hein, que j'écris très souvent des poèmes qui parlent en fait de mes racines, parce que je pense qu'il est également très important de ne pas oublier ses racines, de s'ancrer et donc de s'inscrire dans cet héritage, finalement. Voilà. Donc alors là, je vais vous lire celui qui s'appelle « Femme ». Il y en a d'autres qui parlent des femmes dans le recueil, mais c'est celui que j'ai choisi ce matin.
Merci.
« Femme, aime-toi sans conteste, aime-toi sans complexe. Sois pour toi une amie, sois pour toi une sœur. Aime profondément tes sœurs, tes amies, et vois en elles les beautés de la femme. » Invite l'homme à voir ta grandeur en lui montrant ta lumière et ta force, car en t'aimant toi-même, tu feras des autres des alliés indéfectibles. Pour toi est le regard de l'amoureux, un regard plein de tendresse, un regard qui voit la beauté des corps. Femme, embrasse ton âme, sois toi-même, ose les interdits, sois celle que tu rêves d'être. Aujourd'hui, ma sœur, célèbre ton cœur de femme et invite à la fête tous les hommes et toutes les femmes que tu sers sur ton cœur. Aujourd'hui, ma sœur, souviens-toi de la petite fille que tu étais et aime-la d'un amour de lionne, aime-la sans réserve. Aime sa folie, ses rires, ses pleurs, ses appels de tendresse, ses visions du cœur, ses cheveux courts et sa silhouette d'elfe. Aujourd'hui, ma sœur, souviens-toi de l'adolescente que tu étais. Chéris le sang qui coule chaque mois, car il te rappelle que tu es fille de la lune. Aujourd'hui, ma sœur, souviens-toi avec tendresse des femmes de ta famille, des femmes de ton arbre, et contemple le legs transmis. Legs de tissu, legs de plume, legs de gitane, legs de mélancolie. Aujourd'hui, ma sœur, vois avec gratitude ce que t'ont offert toutes tes sœurs, des fous rires, des moments de folie, des larmes, des savoirs. Ainsi, fille de la terre, vous dansez la danse de la joie. Joie d'être femme et de s'aimer ainsi, pour se laisser aimer, par celui qui voit la lumière de la femme, tandis que tu vois la lumière de l'homme. Mon amie, ma sœur, tu peux être celle que tu veux. Sorcière ou fée, princesse ou reine, pilote ou scientifique, poétesse ou bergère. Seul l'amour de l'essence de femme compte dans ton cœur joyeux.
Angéline Billot, donc Parole de lumière, ce titre de ce recueil de poèmes. Femme, au singulier, donc, ouais. que l'on retrouve page 180 ou 179 sur votre livre, Paroles de lumière. Vous êtes dans l'enseignement.
Également, oui.
Donc, des classes de quel
niveau?
Quel Alors, niveau, ouais. voilà.
J'enseigne au lycée.
Oui.
Et bien sûr, j'enseigne le français, la littérature, parce que, comme je vous l'ai dit, l'amour de la littérature a été un des moteurs qui est très relié évidemment à l'écriture, à l'acte d'écriture. Et l'amour de la littérature, c'est toujours ce qui a été mon moteur, c'est toujours ce qui m'a guidée. Donc du coup, j'ai toujours été une grande lectrice. Ensuite, j'ai voulu un peu rendre la monnaie de la pièce de mes professeurs, à mes professeurs plutôt, dans le sens où mes professeurs ont participé à cet amour de la littérature, de l'écriture. Et en fait, j'ai voulu m'inscrire aussi dans cette tradition, pareil, en me disant que j'allais faire pareil, j'allais faire naître dans le cœur de certains jeunes l'amour de la littérature, ou pas le faire naître, mais peut-être l'entretenir, ou essayer de préserver chez eux l'amour de la lecture. L'amour de découvrir des belles histoires, par exemple, ou l'amour de l'écriture également. Et donc, j'ai fait des études de littérature. Et après, j'ai passé mon concours pour être professeur. Voilà. Donc, mais c'est toujours dans la même idée de partager, en fait, de transmettre. Parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi un acte de transmission, en fait, d'une expérience qui parle à plein de personnes, aux lecteurs, quoi, en fait. Et évidemment, l'enseignement, bien entendu, également. Donc, voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de mon grand-oncle, mm-hmm. qui était poète, mais il était aussi professeur de français. Voilà, c'est aussi une histoire de famille, en fait, l'enseignement, et l'enseignement de la littérature en particulier.
Alors, vous écrivez de la poésie depuis toujours. Est-ce que vous chantez aussi
Je chantais, parce que là, j'ai plus le temps.
D'accord. L'envie de transformer un poème en chanson, est-ce que ça vous vient ou c'est
Alors
pas
ça,
nécessaire
Ouais. En fait, ça a toujours été aussi un de mes objectifs, une de mes grandes passions, maintenir le lien ou de faire apparaître le lien entre la poésie mais aussi d'autres formes artistiques qui peuvent être des formes d'art visuel comme la peinture ou encore la chanson. Ah, ça, j'ai toujours vraiment beaucoup... ça a toujours été mon truc, ça. Par exemple, mon mémoire de maîtrise portait sur les liens entre Picasso et Apollinaire, dans le sens où je voulais montrer qu'il y a toujours eu des liens, évidemment, entre toutes les formes d'expression artistique. Et donc, j'ai déjà travaillé avec des peintres, par exemple à Mayotte, où on avait fait un très bel agenda avec un ami peintre. Et en fait, lui illustrait l'agenda avec ses tableaux, et moi avec mes poèmes qui accompagnaient aussi ses tableaux. Donc, je trouve cette confrérie, en fait, confrérie artistique, je trouve que c'est toujours très intéressant. Et donc là, j'ai quelques projets qui vont dans ce sens-là, avec une amie, déjà, et puis avec aussi mon père, mon papa, avec qui on a l'objectif de faire une exposition, donc lui avec ses tableaux, parce qu'il est peintre, et d'accompagner ses tableaux avec mes poèmes. Mais ça fait très longtemps que ça fait partie, en fait, de ce que j'aime faire en tant que poétesse. Et pour ce qui concerne la chanson, bien entendu, évidemment, ça aussi, parce que, effectivement, puisque j'ai longtemps chanté, alors dans des chorales, et puis après, choriste quand j'étais à Mayotte, avec des chanteurs comoriens comme Malèche ou Nawal. Et puis ensuite, dans un groupe qu'on avait monté avec des amis, un groupe de musique du monde où il y avait un peu de... Donc ça pouvait être des chansons comoriennes ou des chansons d'autres horizons. Alors bon, comme on était dans l'océan Indien, donc du coup on avait des musiciens et des chanteurs qui pouvaient être comoriens, métropolitains, mauriciens, donc de l'île Maurice. Donc voilà, on voyageait beaucoup avec notre groupe qui s'appelait Kaokia. J'avais déjà à ce moment-là proposé de mes textes, certains de mes textes, en fait, notamment au chanteur comorien Malèche, Voilà, c'était un texte qui m'avait été inspiré par ma fille Anna. J'avais écrit un poème sur elle et je l'avais proposé à Malèche pour qu'il en fasse une chanson. Donc effectivement, ça fait longtemps que ça me traverse l'esprit, tout à fait. Voilà.
Alors je vois sur, puisque vous parlez de Anna, c'est elle qui a réalisé la couverture.
Oui, ouais,
voilà.
Ouais.
Très jolie.
Oui.
L'envie de transmettre, donc j'entends aussi. Est-ce que vous donc dans l'enseignement ça passe, mais est-ce que animer des ateliers d'écriture pour les jeunes ou pour les moins jeunes, ça vous
Alors bien sûr que l'animation d'ateliers d'écriture, tout ça, ben évidemment ça. Ça fusionne un peu le tout, quoi, l'enseignement, l'acte d'écriture, etc. Je ne l'ai pas encore fait, mais on me l'a déjà proposé plusieurs fois. Et en fait, j'attends tout simplement que les projets se concrétisent. Donc j'en ai, par exemple, j'ai 2 projets éventuellement. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que là, pour l'instant, ils en sont au stade de propositions que certaines personnes m'ont faites dans le cadre de festivals, par exemple. Mais après, si vous voulez, une fois que ce sera concrétisé, si vous voulez, je reviendrai et je vous en parlerai.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous lire un second poème ?
Vous avez envie de me faire travailler ce matin.
Exactement. Parce qu'on a parlé des femmes, maintenant vous allez me parler des enfants.
Allez, c'est parti. Alors oui, les enfants, c'est pareil. Hein, c'est toujours... Je me suis aperçue que, en fait, la transmission et le lien à l'enfance et aux enfants m'a toujours rattrapée, quoi que je fasse. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé à écrire mon roman « Les enfants de Pachamama », donc aussi étrange que ça puisse paraître, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire et où j'allais, mais vraiment pas du tout. Donc je commence à l'écrire et puis là, au bout d'un certain moment, je m'aperçois qu'en fait, c'est un livre qui pouvait être destiné à des jeunes, puisque mon personnage, au départ, mon héroïne, elle a 16-17 ans. Donc elle est jeune et elle s'entretient régulièrement avec sa petite sœur, etc. Donc il y a beaucoup de liens avec l'enfance dans mon... Puis cet esprit d'enfance, d'enfant intérieur, tout ça, de rêve, tout ça, dont je parle beaucoup dans ce premier roman. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça me rattrape tout le temps, finalement, ce côté de transmission et de lien avec l'enfance. Et là, j'ai un projet, d'ailleurs, d'écriture. Alors d'ailleurs, ce roman en question, « Les enfants de Pachamama », j'avais eu mon éditeur au téléphone et il hésitait à le faire publier dans une collection destinée aux romans jeunesse, en fait. On a beaucoup hésité tous les deux parce qu'on ne savait pas trop. Finalement, il a décidé de le faire paraître dans une édition un peu plus... dans une collection, pardon, un petit peu plus axée autour du développement personnel, hein, qui s'appelait la collection Devenir Soi. Mais voilà, on avait pas mal hésité. Et là, actuellement, j'ai un projet d'écriture. Je suis sur un manuscrit que je suis en train de terminer. Mais après, le prochain que je veux écrire un roman jeunesse. Voilà, toujours pareil, transmettre aux enfants, parler aux enfants intérieurs, à l'enfant intérieur aussi. Quand j'avais écrit « Les enfants de Pachamama », d'ailleurs, il y a les enfants dans mon titre, j'ai eu la surprise de m'apercevoir que parmi mes lecteurs, il y avait des personnes, des hommes, personnes âgées, enfin d'un certain âge, on va dire, qui ont adoré mon livre. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que le livre a parlé à l'enfant intérieur. Et ça leur a... En fait, ils se sont replongés, en fait, finalement, dans l'esprit, dans leur enfance, dans l'esprit de l'enfance. Voilà, donc ça peut parler... à tout âge, à tous ceux qui sont encore reliés à leur enfance et à leur enfant intérieur.
Et il faut espérer qu'on ait toujours ce contact avec l'enfant intérieur.
Ah ouais, exactement. Moi, ça me semble très précieux pour être un adulte, je dirais, accompli. Entre guillemets, ça peut paraître très bizarre parce qu'on se dit, non, justement, être un adulte, c'est justement ne plus être un enfant. Mais être un adulte en ayant complètement oublié cet enfant que nous étions, cet enfant intérieur... ça me paraît être d'une grande tristesse. Voilà. Donc, quand j'écris, comment dire ? Au moment où j'écris, je ne conscientise pas ça. Hein. Voilà, je me dis, tiens, je vais écrire, et puis hop, les idées, elles fusent. C'est après que je me rends compte que ça peut parfois s'adresser à l'enfant intérieur. Donc là, je vais vous lire La magie de l'enfance. Et si le secret du bonheur se trouvait dans l'enfance ? Viens avec moi, je t'emmène aujourd'hui au pays de l'enfance. Ne sois pas l'adulte à l'enfant volé. Ne crois pas que tes rêves d'enfant ne sont que sottises, alors que ce sont là tes plus belles vérités. Souviens-toi de l'enfant que tu as été. Dans l'enfance se trouve le secret du chemin qui te ramène à ton cœur. L'enfant se joue du passé et du futur. Il vit dans l'instant présent. Il fête chaque instant. Il chante, il court, il rêve, en ses rêves et la vérité, tandis que l'adulte vit dans l'illusion. Le rêve n'a aucun prix. Le rêve ne rapporte rien. Le rêve est tien. Et l'enfant est toujours là, au creux de ton cœur. Ne te laisse pas voler l'enfant que tu es par de vaines préoccupations. Non, souviens-toi comme tu étais heureux avec rien, car ce rien était tout. Souviens-toi comme tu croyais que les fées existaient. Ferme les yeux et retrouve cette fée, celle qui venait te voir dans tes songes. Elle peut revenir quand tu le souhaites, à condition de vraiment le vouloir. La fée est là, à côté de toi. Elle est d'une beauté extraordinaire. Ses longs cheveux flamboyants sont coiffés en une couronne tressée dans laquelle elle a semé de petites fleurs. Elle porte une longue robe au tissu fluide, d'un vert pastel aux couleurs du printemps, et dans sa main fine, elle porte une baguette scintillante. Son visage sourit, ses beaux yeux expriment son amour. Tu lui donnes ta main, et confiant, tu la suis. Tu retrouves le monde magique de l'enfance, sur l'île magnifique où la fée te conduit. Avec elle, tu t'es envolée pour rejoindre l'île au palais de cristal. Des fées plus jolies les unes que les autres dansent la ronde et chantent avec insouciance. Elles sont belles car leur cœur est pur. Tu t'assieds dans une clairière au milieu de chênes qui forment un cercle. L'herbe est douce, tu sens le parfum de fleurs, tu entends le chant des oiseaux. Non loin de là, un ruisseau coule et la fée te parle de sa voix musicale. Tendre enfant du monde perdu, tu peux retrouver l'innocence du rêve quand tu le souhaites. Comme autrefois, lorsque tu contemplais les dessins des contes de fées, l'image du bonheur revient dans ton cœur dès que tu en exprimes le désir. Je suis là, à tes côtés, toujours présente pour toi. Dès que tu me le demandes, je t'apporte réconfort, tendresse et amour. Je te serre dans mes bras comme un petit enfant et je te chante une berceuse venue de l'île fantastique, la berceuse oubliée des temps légendaires. Rejoins-moi ici dès que tu veux ou appelle-moi et je viendrai. Car là où tu retrouves l'enfant que tu fus, tu retrouves également ton âme perdue. Tu retrouves ton cœur, tu retrouves l'amour et tes peurs s'envolent comme par enchantement. Mon cher lecteur, ne verrouille pas ton cœur, ne tourne pas le dos à tes rêves. En toi se trouve la clé du coffret où ton âme est cachée, trésor parmi les trésors.
Merci. Donc, Angéline Billot, Paroles de lumière aux éditions Le Lys Bleu. On peut retrouver donc ce livre partout dans les librairies.
Alors, en fait, vous le retrouvez donc soit directement sur le site de la maison d'édition Le Lys Bleu, où vous pouvez commander directement, version papier ou version numérique, parce que maintenant, il y a des lecteurs qui aiment bien lire sur des liseuses, par exemple. Après, vous le retrouvez aussi sur les grandes plateformes de commande en ligne. Et puis, alors, dans les librairies, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, Le Lys Bleu, c'est une petite maison d'édition indépendante. La poésie, c'est très difficile à éditer. Hein. C'est vraiment difficile de trouver un éditeur. Donc là, il s'agit d'une petite maison d'édition indépendante. Ce qui signifie que le distributeur va pas forcément très facilement être représenté dans les librairies. Non pas parce que les libraires ne le souhaitent pas, mais tout simplement parce que il va pas pouvoir toucher beaucoup de librairies, en fait. Hein. Donc ça, c'est des libraires qui m'ont expliqué tout ça, parce que je ne connaissais pas toutes ces arcanes de l'édition, librairie, etc. Donc, en fait, tout simplement, si vous avez envie de retrouver mon recueil de poésie, dans votre librairie, vous y allez avec les références, c'est-à-dire le titre, mon nom d'auteur, éventuellement le nom de la maison d'édition, qui est Le Lys Bleu. et vous demander à ce qu'il soit commandé. Donc le libraire, par contre, après, il le retrouve très facilement dans son catalogue, quoi. Voilà. Donc après, il peut en commander plusieurs et les mettre ensuite en librairie. Mais voilà, donc les petites maisons d'édition indépendantes ne sont pas forcément représentées physiquement dans les rayons de toutes les librairies de France. C'est plus compliqué que pour les grandes maisons d'édition, en fait.
D'accord. Pour votre précédent ouvrage, donc, Les enfants de Pachamama, oui. On le trouve, c'était également dans cette même édition.
Non, c'était une autre maison d'édition, qui était la maison d'édition Maya, qui était aussi une petite maison d'édition indépendante. Alors, les deux sont situés à Paris. Hein. C'est le même principe de maison d'édition indépendante, en fait, c'est-à-dire les petites maisons d'édition qui essaient de trouver leur place parmi, au milieu des grandes maisons d'édition, sachant que le marché du livre est quand même assez compliqué. Hein, on n'est pas sur une période, je dirais, l'inflation touche tout le monde. Hein, donc, c'est un peu complexe, en fait, le marché de l'édition également. Donc, elles essaient de trouver leur place au milieu des grandes maisons d'édition. Et donc, c'était le même principe, mais en fait, pour ce recueil, parce que la maison d'édition Maya fonctionnait sur le principe du crowdfunding, où en fait, ils vont lancer l'impression et la publication de l'œuvre après avoir lancé une campagne de participation, pour laquelle, en fait, je dois faire appel à mes amis, etc. Donc, je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de manuscrits qui attendent, là. Je me suis dit, je ne vais quand même pas les...
Racketter tout le monde.
Voilà, les racketter comme ça tous les ans. Donc, il y a un moment, il va falloir que j'essaie de trouver une autre solution. Or, la maison d'édition Le Lys Bleu, eux, ils fonctionnent de manière beaucoup plus classique, c'est-à-dire on leur envoie le manuscrit et après, ils le publient à leurs frais, à eux. Mm-hmm. Donc, du coup, voilà, exactement, je ne suis pas obligée, du coup, de racketter mes amis.
Bon, c'est pas joli comme terme.
Non, c'est pas très joli.
C'est un cadeau, en fait.
Ouais, exactement. Alors, après, je dis ça, mais franchement, les amis qui ont participé, j'en ai discuté avec certains, ils trouvaient l'idée géniale. Mm-hmm. Ils me disaient, mais c'est trop bien, parce qu'en fait... on peut participer à un projet de création. Et en fait, ils ont beaucoup aimé cette idée de collaboration à un projet artistique. Donc, je pense que ça ne les aurait pas dérangés. C'est plus moi, finalement, que ça dérangeait. Mais eux, non, hein, ils l'auraient fait encore avec plaisir, ça, c'est sûr.
Vous avez un site, un Facebook
Alors, maintenant, les maisons d'édition nous demandent d'être présents sur les réseaux sociaux pour, pour participer à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire la phase de promotion de l'œuvre. Mm-hmm. Parce qu'une fois qu'on a écrit et publié, bien sûr, l'objectif, c'est de transmettre et d'avoir des lecteurs et donc, de vendre l'œuvre. Et donc... je suis appelée à faire régulièrement des promotions, donc ça peut être radio comme aujourd'hui, mais ça peut être des conférences, tout un tas de... Voilà. Et donc, je partage sur mes réseaux sociaux tout ce que je fais pour que mes lecteurs ou d'autres personnes qui auraient envie de me découvrir soient au courant de mes dernières activités. Donc parfois, ça peut être des conférences, hein, je peux aussi être amenée à faire des conférences. Ou des séances de dédicaces, donc dans des librairies ou dans des salons. Et donc, je tiens mes lecteurs au courant de mon actualité sur ma page Facebook auteur qui s'appelle Angéline Billiot, donc elle est à mon nom d'auteur. J'ai aussi une page Instagram qui est au même nom. Voilà, on la retrouve au même nom. Et c'est sur ces deux pages que je communique le plus, en fait, hein, sur mes différentes activités, conférences, salons, séances de dédicaces,
Justement, vous avez de l'actualité à venir.
Oui.
Des rendez-vous à donner.
Tout à fait. Alors, le prochain sera pour mes lecteurs basques, au Pays Basque. Je vais faire une soirée conférence et séance de dédicace au Pays Basque, dans un petit village du Pays Basque qui s'appelle Cambo. Ce sera le jeudi 2 novembre, donc en début de soirée, dans un lieu très joli qui s'appelle Oyana. Et donc voilà, donc ça c'est pour les amis basques. Après, je reviens ici, bien sûr. Et donc normalement, j'ai un projet de conférence à Fort-Calquier. Dans le cadre d'une association dans laquelle je suis partenaire et qui me soutient depuis le début. Et vraiment, c'est une association qui me tient à cœur avec de très, très, très belles personnes qui
en
font partie.
On peut donner le nom de l'association. Oui,
voilà, exactement. C'est ce que j'allais faire parce que ça me fait vraiment tellement plaisir de parler de cette association parce que c'est tellement des belles personnes. Et en fait, un de leurs objectifs, justement, c'est de mettre en avant les nouveaux les artistes. Voilà, Et donc, l'association s'appelle Harmonisation de Gaïa. Donc, c'est pareil, ils ont un site. Ils sont principalement basés à Fort-Calquier. Et donc, voilà, ce sont de très belles personnes et qui m'ont offert l'opportunité. Alors déjà, j'ai déjà fait des conférences avec eux lors de salons qu'ils avaient organisés à Fort-Calquier. Et puis là, ils ont proposé encore d'autres conférences. Donc la date n'est pas encore arrêtée. Il faut que je revoie.
Alors quand vous dites conférence, voilà. C'est quoi ? C'est sur un thème
Oui. Alors là, par exemple, donc avant, bien sûr, quand je faisais des conférences, je parlais des enfants de Pachamama et du thème qui est associé, qui est le lien que nous avons avec la Terre, voilà, dans une démarche à la fois écologique, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour moi, le lien à la Terre doit se réinventer actuellement, mais pas seulement se réinventer d'un point de vue écologique, hein, bon, ce qui me paraît aussi très important, mais aussi d'un point de vue, je dirais, d'un rapport que nous allons de plus en plus avoir, selon moi, avec la Terre, qui est celui d'un rapport que nous avions, que nos ancêtres avaient, qui est un rapport extrêmement ancien, que nos ancêtres pouvaient avoir, quand je parle des ancêtres, ça pouvait être les Celtes, comme ça pouvait être dans la tradition gréco-romaine, qui est un rapport un peu de représentation de la Terre comme un être maternel. C'est vraiment la voir comme un être vivant, ce qui va développer l'empathie envers la Terre. Et bien sûr, si on a de l'empathie envers elle, si on la considère non pas comme une planète morte, mais plutôt comme un être vivant, bien entendu, le lien qui va se mettre en place avec la Terre va changer. Évidemment, il va être métamorphosé. Et donc, moi, ça me paraît faire partie d'un mouvement actuel, il me semble, auquel on ne va pas pouvoir échapper, en fait. Bon, donc ça, c'était les conférences telles que je pouvais faire avant, ou des fois, j'en fais encore sur ce thème-là. Et par contre, là, par rapport à mon recueil de poésie, là, je vais commencer à faire des conférences plus sur le thème de la poésie lyrique et de la poésie alchimique pour montrer dans quel héritage et dans quelle tradition je m'inscris en tant que poétesse. Voilà, donc une tradition lyrique et alchimique qui est extrêmement ancienne également. C'est une tradition gréco-romaine, mais pas seulement, hein, elle est aussi dans beaucoup d'autres cultures. Voilà, donc elle date de l'Antiquité.
Eh bien, je vous remercie pour ce passage, pour la présentation donc, de votre dernier né, Parole de Lumière, Angéline Billot. Je rappelle, donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux Angéline Billot, B-I-2-L-I-A-U, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, bien sûr, donc, les éditions Le Lys Bleu pour Parole de Lumière et l'édition Maya. Pour les enfants de Pachamama.
C'est ça.
Merci.
Merci Odile, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'est aussi rue du Chêne que commence notre voyage. Dans cette maison en bois faisant face à l'église, laissons le portillon, longeons la route grise. Suivez-moi, entrons par le garage. Quand la serrure têtue se décide à céder, on y trouve fraîcheur et montagne de bois, mais remarquez plutôt la hauteur de son toit, il paraît qu'on pourrait y stocker un voilier. Prenons la petite porte menant au cagibi. Une brave chaudière besogne malgré l'usure, trois étagères dégueulent un trop-plein de chaussures et toute cette collection d'objets endormis. Entrez dans la maison. Sentez-vous cette odeur? C'est l'empreinte olfactive du lieu, des habitants. Vous savez, ce parfum unique et rassurant que nous ne remarquons qu'en tant que visiteurs. Nous voici dans le hall, la porte d'entrée ouverte. Une lavande timide craint de se faire couper. On aperçoit une clochette pour se faire annoncer, mais seul le vent s'amuse avec cette sonnette. Continuons notre parcours. Ici, la cuisine, mais ne nous attardons pas. Peu de prouesses culinaires sont à observer là. Seule l'horloge en forme de poêle vaut le détour. Ici, le salon, la bibliothèque grandiose, le piano, vieilli, un peu désaccordé, tente tant bien que mal de rivaliser avec une flûte traversière toujours plus virtuose. Jusqu'au premier étage, prenons l'escalier. Ici, une mezzanine cache de ses trésors de robes, de costumes, de tentures, de décors. Sur sa moquette rose, laissez-vous théâtrer. Dans la véranda, si vous regardez bien, vous verrez trois korrigans dans leur souche de bois, trois conteurs muets. Ah, et ne dérangeons pas la libre procession d'un couple de lapins. D'ici, l'immense jardin, vous pouvez le voir, la glycine éclatante et deux saules pleureurs, l'un grand, l'autre petit, pourtant plantés à la même heure. Et tout au fond, le souvenir d'une balançoire. Enfin, je vous laisse monter au grenier pour aller découvrir un univers de livres en grec ou en latin, biblique ou bien païen. Voici l'antre érudit des mots et du papier. Et après avoir enjambé la poutre, mes amis, je vous présente la mémoire vive du lieu, les anciens jouets, les vêtements miteux, qui se souviennent sans cesse de ce que l'on oublie. C'est ici que s'achève notre visite partagée. Bien d'autres pièces vous resteront secrètes. J'aurais pu vous en montrer davantage, certes, vous montrer dans la cuisine l'imposante cheminée, vous parler aussi de l'histoire de la propriété, le puits dans le salon scellé sous le carrelage, et les danses en son sein, les fêtes de village, des voisins qui virent ici leur couple se former. Mais c'est ici que s'achève la visite de la demeure, ayant vu mon enfance se bâtir doucement. Et si j'y retourne toujours accueillie tendrement, je m'y sens de passage, comme vous, visiteurs. Et même si je la connais par cœur, au fond, je le sais, même si c'est attristant, je ne suis plus chez moi. Et si un jour la vie m'offre une maison en bois, j'espère que ses fondations en seront inspirées, du garage au grenier. Faites-moi ressentir, faites-moi avouer les malheurs tout petits que j'ai là bien enfouis sous la paupière scellée. Faites-moi lâcher mes meutes d'émotions à trop fuir le frisson. On a peur d'éprouver. Petit hoquetement, des larmes s'écroulant enfin sur le papier. Faites s'écouler toute l'eau nécessaire pour me laver entière, à nouveau baptisée. Faites-moi chavirer, je ne demande que ça, presque mourir en bas. Savoir ce que c'est que couler. Faites-moi étouffer, faites sortir de force s'il faut briser l'écorce pour retourner.
vent éclaté, je boue depuis longtemps sans me plaindre et pourtant pour un seul corps c'est trop. Mais faites-moi pleurer avec ou sans raison, je m'en fiche au fond, je veux juste déborder. Faites-moi chialer, ne soyez pas tendre, faites-moi entendre que ma peine est vraie. Faites-moi souffrir, oui je veux y passer, parce que le fond touché, je ne peux que revenir. Parce que le fond touché, je ne peux que revenir. Qu'un petit bout de moi, complètement submergé, ne restez pas comme ça, ouvrez grand vos bras. Et consolez-moi. Échapper au petit Paul qui, pour satisfaire une curiosité légitime, cherche à soulever le mystère des dessous des copines. Un vrai aventurier, mais ici rien de bien méchant, c'est juste pour rigoler. Laissez donc jouer les enfants. Elle court, la petite, c'est pour mieux se faire attraper. Et court et court, mon bonhomme, c'est comme ça qu'on devient un homme. Lui l'a vu à la télé, c'est comme ce qu'il faut faire. Les filles elles font leur mijaurée, mais elles aiment être embêtées par un emmerdeur prépubère. Ah le coquin, le chenapan, plus tard ce sera un vrai coureur, un Roméo, un Don Juan, qu'il est farceur. Que c'est mignon, que c'est mignon. La jupe de Marilyn, c'est pour les garçons. Marilyn a 20 ans et dans le métropolitain, elle ne sait pas comment se débarrasser de Firmin qui, pour satisfaire un besoin viscéral de contact, a jugé bon de laisser balader une main moite. Ah, comme c'est romantique, mais il n'y a aucun danger. C'est moderne, ça s'appelle la liberté d'importuné. Elle tremble la petite, elle aurait dû mieux se couvrir pour ne pas tenter un jeune homme incapable de se retenir. Lui l'a vu à la télé, c'est comme ça qu'il faut faire. Les filles elles font leur mijaurée, mais elles aiment être tâtées par des hommes aux mains téméraires. Ah le tombeur, le passionné, lui il sait subtilement déceler dans des yeux apeurés le oui se camouflant. Que c'est touchant, que c'est touchant. Le corps de Marilyn, c'est pour les garçons. Marilyn a 30 ans et au domicile familial reçoit de ses parents un avertissement amical. Car pendant qu'elle vit sa petite vie égocentrique, elle semble oublier la trotteuse de l'horloge biologique. Ah comme c'est merveilleux, couche l'endomaxicosi. Une femme véritable est une femme qui donne la vie. Et passent les années, il faut trouver un géniteur pour cette jeune femme égarée qui n'est plus de première fraîcheur. Eux, ils l'ont vu à la télé, c'est comme ça qu'il faut faire. Les filles, elles font leur révolter, mais rêvent d'un avenir étriqué sur un chemin héréditaire. Ah, les bons, les dignes parents, ils savent donner la pression. Elle n'en veut pas, elle en voudra, c'est le sens de son existence. Que c'est mignon, que c'est mignon. La vie de Marilyn, c'est pour les biberons. Et le temps a passé, Marilyn a vécu comme il se doit, essayant tant bien que mal de dissiper tous ces pourquoi, en vivant à l'étroit dans un monde de tradition. On ne peut qu'espérer en la prochaine génération. Evelyne a 9 ans et sur le gravier de l'école, elle court à plein élan pour rattraper le petit Paul qui, ayant voulu renouveler les vices habituelles, se voit corrigé par une coriace demoiselle. Ah, une vraie déterminée, mais ici rien de bien méchant. Il l'a bien mérité, laisser s'éduquer les enfants. Elle court, la petite, rien ne pourra plus l'arrêter. Tu peux bien courir, mon bonhomme, tu te feras vite rattraper.
C'était Anne-Lise Roche qui nous a interprété tour à tour. Donc c'était 6 rue du Chêne.
Je vous l'ai dit.
Pardon, 6 rue du Chêne. Ensuite, Faites-moi pleurer. Et ensuite, Marilyn. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Marion Cousineau dans son poème qui s'intitule Amour et qui est sur ce même album Amour de Marion Cousineau.
Je voudrais dire amour sans qu'il y ait toi et moi, sans billet de retour, juste pour les lilas, comme un air qu'on savoure en se léchant les doigts. Je voudrais croire amour quand il me dit encore qu'à chaque carrefour il y a un trésor et que le vent qui tourne ce n'est pas la mort. Je voudrais moudre amour en tout petits morceaux qui trouveraient le tour pour pénétrer les peaux de corps toujours plus sourds au discours des oiseaux. Je voudrais être amour comme on est pyromane, et le suivre toujours malgré les petits drames qui font des ciels trop lourds pour mes élans de femme. Je voudrais vivre amour et ne pas en démordre. Tant pis si je me gourre, tant pis pour le désordre, faire frissonner amour jusqu'à ce qu'il déborde.
Questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare, fino al punto esatto, fino al punto dove il fiume accarezza il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. Fino a quando non potranno più sentire, e sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare, molto vicino al punto esatto dove
il fiume accarezza il mare.